Lettre 43. Continuation de la lettre d'Evelina. Monsieur Smith est venu ce matin m'offrir un billet pour l'assemblée de Hampstead. Je l'ai remercié de son attention, mais en le priant de m'en dispenser. Il ne se rebuta à point de mon refus et il insista avec chaleur. Enfin, voyant que je ne pouvais me débarrasser de lui, je lui déclarai net que mon parti était pris et que je n'accepterais point son billet. Une réponse aussi ferme le décontenança, et il jugea à propos de me demander mes raisons. Tout autre que lui les aurait aisément devinées, mais comme il ne parut pas s'en douter, je crus qu'il serait déplacé d'en venir à des explications. Il me prévint d'ailleurs. « Mais en vérité, madame, vous êtes trop modeste. Je vous assure que ce billet est entièrement à votre service, et je serai très flatté d'avoir l'honneur de danser avec vous. Plus de façon, je vous en prie. » Vous vous trompez, monsieur, lui répondis-je. Je ne suis pas capable de penser que vous m'ayez offert une politesse sans avoir l'intention de me la faire accepter. Mais il serait inutile de vous alléguer les raisons de mon refus, puisqu'également, il ne dépend pas de vous de lever mes difficultés. Cette réplique sembla le mortifier un peu, et je n'en fus pas fâché, car je ne goûtais pas trop les libertés qu'il se donnait. Persuadé enfin que toutes ces instances étaient inutiles, il se tourna vers Madame Duval et la pria d'intercéder pour lui, qu'il aurait soin de se procurer un second billet pour elle-même. « Monsieur, lui dit-elle avec humeur, vous eussiez pu tout aussi bien me demander la première. Je ne suis pas accoutumée à ces sortes de grossièretés. Gardez vos billets, nous n'en avons que faire. » Cette sortie acheva de le déconcerter. Il fit quelques excuses à Madame Duval en ajoutant assez adroitement qu'il n'aurait pas manqué de s'assurer d'avance de son agrément s'il avait pu prévoir le refus de la jeune demoiselle, qu'il avait espéré, au contraire, que celle-ci l'aiderait à la persuader elle-même. Cette justification parut suffisante à Madame Duval et M. Smith, à mon grand chagrin, emporta son consentement. Elle lui promit, pour elle et pour moi, que nous le suivrions à Hampstead dès qu'il voudrait. M. Smith, fier de ce succès, s'approcha de moi pour me demander d'un air triomphant si je comptais encore persister dans mon refus. Je ne lui répondis rien et il se retira. Il a entièrement réussi à captiver les bonnes grâces de Madame Duval. Et elle a dit, lorsqu'il fut parti, que c'était le plus aimable jeune homme qu'elle eût vu en Angleterre. J'ai saisi la première occasion pour essayer de prier Madame Duval, avec toute la modération possible, de me dispenser de cette partie. Je lui ai représenté de mon mieux combien il serait indécent que j'acceptasse un cadeau de la part d'un jeune homme que je ne connais point. Elle s'est moquée de mes scrupules en m'appelant une sotte petite campagnarde qui a grand besoin d'apprendre l'usage du monde. Le bal aura lieu la semaine prochaine. Je suis persuadée qu'il ne me convient pas que j'y aille et par cette raison, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour esquiver cette invitation. Miss Brankton pourrait m'être utile dans cette occasion. Elle a des vues sur M. Smith et elle désapprouvera vraisemblablement qu'il m'ait choisi pour sa moitié, de sorte qu'elle m'accordera volontiers ses bons offices. 11 juillet. Oh, mon cher monsieur, j'ai eu une frayeur mortelle et en même temps un grand sujet de joie. J'ai sauvé un homme qui sans moi était perdu. Madame Duval m'annonça ce matin qu'elle se proposait d'inviter pour demain la famille Brankton. Et ne jugeant pas à propos de se lever encore, elle passe ordinairement la matinée au lit, elle me chargea de ce message. Monsieur Dubois, qui arriva dans le même moment, m'accompagna. Je trouvai Monsieur Brankton dans sa boutique. Il me dit que ses enfants étaient sortis, mais qu'ils rentreraient incessamment. Il me pria de prendre la peine de monter pour les attendre. C'est ce que je fis pendant que Monsieur Dubois resta en bas. J'entrai dans la chambre où nous avions dîné la veille, et par un hasard des plus singuliers, je me plaçai le visage tourné contre l'escalier. Dans moins d'un quart d'heure, je vis passer l'Écossais dont je vous ai parlé dans ma dernière. Il avait les yeux égarés et sa démarche était incertaine. En tournant le coin de l'escalier, qui est fort étroit, le pied lui glissa et il tomba. Dans le mouvement qu'il fit pour se relever, j'aperçus distinctement le bout d'un pistolet qui sortait de sa poche. Je fus saisi au-delà de toute expression. Ce que j'avais entendu de la situation misérable de ce jeune homme me fit craindre qu'il ne méditât un mauvais coup. Frappé de cette idée, les forces me manquèrent. Je demeurai immobile, incapable d'agir, glacé d'effroi. L'étranger continua son chemin et je le perdis bientôt de vue. Je tremblais comme une feuille, mais la réflexion que je pourrais peut-être prévenir un malheur me rendit mes esprits et je me remis, soutenu par l'espérance de sauver cet infortuné. Je résolus d'abord de courir vers M. Branton. Mais tout pouvait dépendre d'un seul instant. Je ne pris donc conseil que de mes craintes et je montai au troisième étage. Arrivé au haut de l'escalier, je m'arrêtai. La porte de la chambre était entr'ouverte et je pus distinguer ce qui s'y passait. J'aperçus un pistolet qui était posé sur la table. L'étranger en tira un second de sa poche. Il sortit quelque chose d'un petit sac de cuir. Après quoi, il prit un pistolet dans chaque main, se jeta à genoux et s'écria « Pardonnez, ô mon Dieu !» Dans ce moment, mes forces et mon courage me revinrent comme par inspiration. Je me précipitai dans la chambre et je n'eus pas plutôt saisi son bras qu'accablé de frayeur, je tombai moi-même sans connaissance. Je ne fus pas longtemps à me remettre. Cet infortuné était devant moi et me regardait d'un œil à la fois farouche et attendri. Je me relevai. Les pistolets étaient sur le plancher. J'aurais voulu les ôter, mais j'étais trop faible pour m'y hasarder. L'homme était immobile comme une statue et, sans proférer une parole, il me fixa avec des yeux toujours également égarés. J'étais appuyé d'une main sur la table et, dans cette position, nous passâmes plusieurs minutes. Enfin, ne sachant quelle partie prendre, j'allais sortir. Il me laissa passer et demeura toujours dans une attitude qui marquait le dernier degré du désespoir. Un mouvement de pitié me fit revenir sur mes pas, et poussé par un sentiment que je n'eus pas la force de réprimer, je me déterminai à emporter les pistolets. Mais le malheureux pour qui je m'exposais me prévint et s'empara de nouveau des armes que je voulais lui arracher. Je ne savais plus ce que je faisais. Mais par un heureux instinct, je lui retins les bras et je lui dis « Monsieur, ayez compassion de vous-même !» À ces mots, il laissa tomber les pistolets et, en joignant les mains, il s'écria avec ferveur « Oh mon Dieu, est-ce un ange que tu m'envoies ?» Encouragé par ces mots, j'essayai encore une fois de m'emparer de ses armes. Mais ce furieux m'en empêcha et s'écria « Que prétendez-vous faire ?» « Vous réveillez, » repris-je avec une intrépidité que j'aurais de la peine à retrouver. « Vous ramenez à la raison, vous sauvez du précipice. » Je pris les pistolets. L'homme ne dit pas un mot, il ne chercha pas non plus à me retenir. Je me glissai hors de la chambre et je descendis avant qu'il eût le temps de revenir de son extase. De retour dans la chambre d'où j'avais observé le commencement de cette scène effrayante, je n'eus rien de plus pressé que de me jeter sur une chaise pour m'y abandonner aux sentiments douloureux dont j'étais accablé. Un ruisseau de larmes me soulagea fort à propos. Je demeurai dans cette situation pour rêver à l'aventure dont je venais d'être témoin. Le premier objet que je vis en levant les yeux fut le malheureux jeune homme qui m'avait causé tant d'alarmes. Il se tenait appuyé contre la porte, ses yeux égarés fixés sur moi. Je voulus m'avancer vers lui, mais je n'eus pas la force de quitter mon siège. Alors il me dit d'une voix tremblante « Qui que vous soyez, tirez-moi, je vous supplie, de l'incertitude où je me trouve. Ce qui vient de m'arriver, est-ce un songe ?» Je n'eus pas la présence d'esprit de répondre à cette question qui me saisit par le ton singulier et en même temps solennel dont elle fut prononcée. Mais comme je remarquais que l'étranger cherchait des yeux les pistolets, et qu'il faisait mine de vouloir s'en rendre maître, je fus la première à les relever et je lui criai « Arrêtez, au nom du ciel !»« Mes yeux ne me trompent pas, » reprit-il, « suis-je bien au monde ? Et vous-même, qui êtes-vous » Il fit quelques pas vers moi. Je me retirai à mesure en tenant toujours les pistolets. « Non, lui dis-je, vous ne les aurez pas, vous ne les obtiendrez jamais de mes mains. » « Et dans quelle vue prétendez-vous me les retenir ?» Pour vous laisser le temps de réfléchir, pour vous sauver d'un malheur éternel. Vous me surprenez, reprit-il, les yeux et les mains levés vers le ciel. Vous me surprenez très fort. En disant ces mots, il parut plongé dans la plus profonde rêverie. Le bruit qui se fit entendre au bas de l'escalier annonça l'arrivée des Branton. Aussitôt, cet infortuné se réveilla comme en sursaut. Il s'approcha de moi, mit un genou en terre, saisit ma robe qu'il pressa de ses lèvres et vola promptement hors de la chambre. Une aventure aussi extraordinaire et aussi touchante fit sur moi la plus forte impression. J'étais épuisé au point que je tombais évanoui avant que les Branton fussent entrés. Ma vue devait les effrayer. J'étais étendu par terre, les pistolets à côté de moi. Ce coup d'œil semblait leur annoncer une catastrophe tragique. Je repris insensiblement mes esprits, grâce aux cris plutôt qu'aux soins qu'ils me donnèrent. Ils me supposaient morte et personne ne pensait à m'apporter du secours. J'étais à peine un peu revenu qu'ils m'étourdirent d'un torrent de questions. Ils criaient tous à pleine tête. Je satisfis leur curiosité aussi bien que je pus et mon récit les remplit d'effroi. Mais comme je n'étais guère en état de parler longtemps, je demandai une chaise à porteur pour retourner au plus vite chez moi. Avant de quitter la maison, je leur recommandai instamment de veiller de près leur malheureux locataire et d'écarter surtout soigneusement tout ce qui pourrait servir à exécuter le coup funeste qu'ils méditaient. M. Dubois parut fort en peine de mon indisposition. Il suivit ma chaise et me reconduisit chez Mme Duval. Le sort de cet infortuné absorbe actuellement toute mon attention. Si, malheureusement, il persiste dans l'horrible dessein qu'il a formé, on l'en empêchera difficilement. Que ne puis-je approfondir la nature des maux auxquels il est livré? Que ne puis-je apporter quelque soulagement à ses souffrances? Je suis sûr, monsieur, que vous lui accorderez votre compassion. Que n'êtes-vous ici? Vous trouveriez peut-être le moyen de le faire revenir de l'erreur qui l'aveugle et de verser dans son âme affligée un rayon de paix et de consolation. Lettre 44. Suite de la lettre d'Evelina. Holborn, 13 juin. Hier, les Branton ont tous dîné ici. La conversation roula en grande partie sur l'aventure que je vous ai rapportée. M. Branton exprima ses sentiments à l'égard du malheureux qui en fut l'objet dans des termes qui méritent d'être cités. Voici sa harangue mot à mot. Vous la trouverez marquée au coin de l'humanité la plus désintéressée. Ma première idée, dit-il, était de mettre incessamment mon locataire à la porte, car si, malheureusement, il s'avisait de se tuer dans ma maison, il m'en résulterait un embarras infini. De notre côté, si je le laisse aller, je risque de perdre ce qu'il me doit. Au lieu que, s'il meurt dans ma maison, j'ai un droit exclusif sur sa succession et j'aurai du moins de quoi me payer. J'avais déjà pensé précédemment de l'envoyer en prison. Mais qui aurais-je gagné? Il ne sait rien faire et le peu de travail auquel on pourrait l'employer n'aurait pas de quoi acquitter ma prétention. J'ai donc cru devoir recourir à la voie de la douceur et je lui ai déclaré positivement l'autre jour qu'il me fallait mon argent sur l'heure. Il me renvoya à la semaine prochaine, mais je lui ai donné à entendre que je n'étais pas homme à me laisser leurrer. Alors il me remit une bague qui, j'en suis sûr, vaut 10 guinées entre frères. Il me dit que pour tout au monde, il ne voudrait pas s'en défaire. Mais je me moque de ces balivernes et je compte bien garder le bijou jusqu'à ce que je sois satisfait. « Qui sait d'ailleurs ?» ajouta la cadette des Branton. « Comment cette bague lui est venue ?»« Sans doute, mais n'importe, je pourrai toujours légitimer ma propriété. » Quel principe, mon cher monsieur, quelle façon de penser, et je dois vivre avec ces gens-là. Mais écoutez la suite, s'il vous plaît. Monsieur Branton, le fils, n'oublia pas d'ajouter son avis. Je lui promets bien, dit-il, qu'à la première occasion, je lui ferai boire un affront des plus sanglants. Ah, si j'avais su que cet homme n'était qu'un gueux, comme je lui aurais rabattu les grands airs qu'il s'est donnés en arrivant. Et quels airs ? Demanda Madame Duval. Vous n'avez pas d'idée, ma tante, des querelles que j'ai eues avec lui. Un jour, entre autres, je lui dis, je ne me rappelle plus à quel propos, que peut-être il n'avait jamais eu ci-devant une aussi bonne table que la nôtre. À cette seule parole, voilà-t-il pas qu'il se met dans une colère de possédé. Heureusement, je n'y fis pas grande attention, mais à l'avenir, je saurai bien l'obliger à filer plus doux. Oui, reprit Miss Polly, mais il a bien changé depuis quelques jours. Il ne se sauve plus, il ne se cache plus, il est d'une honnêteté charmante. On le voit toujours dans la boutique, il monte et descend à tout moment, il guette tous ceux qui entrent chez nous. Vous voyez bien ce qu'il cherche, répondit M. Branton. C'est à Miss qu'il en veut. Ah, parbleu, ajouta le fils, ce serait plaisant s'il était devenu amoureux de ma cousine. Fi donc, répartit Miss Branton, la conquête d'un mendiant, j'en aurais honte pour elle. Tel fut cet entretien auquel je n'ai pas pris grande part, comme vous voyez. L'arrivée de M. Smith donna une tournure différente à la conversation. Miss Branton me pria d'observer avec quel air dégagé M. Smith se présentait, et elle me demanda si je ne lui trouvais pas la mine d'un homme de distinction. Il jugea à propos de nous interrompre. « Venez, mesdemoiselles, que je vous sépare. Je ne souffre nulle part deux femmes l'une à côté de l'autre. » Et en même temps, il fit passer poliment Miss Branton sur une autre chaise, et il s'assit entre elle et moi. « Monsieur Smith, n'est-il pas vrai, mesdames, que vous voilà mieux placées que tantôt, et ne trouvez-vous pas que mon arrangement est très bien imaginé ?» Miss Branton, « Je n'y ai rien à redire, pourvu que ma cousine en soit contente. » Monsieur Smith, « Oh, je me pique toujours d'étudier les goûts du sexe, c'est le premier de mes soins. Et d'ailleurs, pouvais-je être de trop ici ? Deux femmes, qu'auraient-elles à se dire ?» Le jeune Branton, « À se dire ? Parbleu, vous n'y pensez pas ? Comme si les femmes pouvaient manquer de matières à jaser. En avez-vous jamais vu qui soit chiche de parole ?» Monsieur Smith, « Point de ces sorties, monsieur Tom, en ma présence. Vous savez que je ne les aime pas et que je suis le champion du sexe. » Miss Branton m'ayant offert ensuite quelques gâteaux, ce galant homme s'avisa de me dire qu'à ma place, il n'accepterait jamais rien des mains d'une femme. Je lui en demandai la raison. « Parce que je craindrais, dit-il, d'être empoisonné par quelque rival de ma beauté. »« Je croyais, monsieur, que vous n'aimiez pas les sorties. » »« Vous avez raison, madame, ce mot m'est échappé malgré moi. On ne réfléchit pas toujours à ce qu'on dit. » Après cela, on se jeta sur les endroits publics et sur les spectacles. Le jeune Branton me demanda si j'avais vu la salle de Georges à Hampstead. Je lui répondis que je n'en avais jamais entendu parler. Le jeune Branton, « Tant mieux, miss, c'est un plaisir de plus qui vous attend et je vous promets que vous en aurez. Nous irons voir cela un de ces dimanches et moi, je prétends régaler. Mais c'est à condition que mes sœurs ne vous préviennent sur rien. Je veux vous ménager une surprise. Et puisque c'est moi qui paie, je crois qu'il m'est permis aussi de faire les conditions. » Monsieur Smith, « Mais y pensez-vous, monsieur Tom ? Voudriez-vous conduire mademoiselle dans un endroit qui n'est fait que pour les gens du peuple ? Si c'était encore chez Don Salter ou à Chelsea, passe pour cela. Connaissez-vous, miss, ce spectacle ? » ?»« Non, monsieur. » »« Monsieur Smith, j'aurai donc le plaisir de vous y accompagner. Vous y trouverez du beau monde, j'en suis sûr, sans quoi je me garderai bien de vous proposer la partie. » Monsieur Branton, père, « Avez-vous vu, cousine, les jets d'eau de Sadler ?»«
Non, monsieur. » »«
Monsieur Branton, père, vous n'avez donc rien vu ?» Le jeune Branton, « Et que dites-vous de la tour de Londres ?»«
Je ne l'ai jamais vue. »
Le jeune Branton, « Comment, jour de Dieu, vous n'avez pas vu la tour ? Vous n'y êtes jamais monté ?»«
Non, assurément. »
Le jeune Branton, « Eh bien, il valait tout autant ne pas venir à Londres. » Miss Polly, vous n'avez donc peut-être pas été non plus au dôme de l'église de Saint-Paul ?
Tout aussi peu.
Monsieur Smith, mais du moins, j'espère, au Vauxhall et à Marybone.
Non plus, monsieur.
Monsieur Smith, non, Dieu me pardonne, vous me surprenez. Le Vauxhall est le premier de tous les plaisirs. Je ne connais rien qui y soit comparable. Il faut que vous ayez vécu dans une singulière société à Londres. N'avoir pas vu le Vauxhall, c'est n'avoir rien vu de la ville. En attendant, c'est à nous à vous venger et à prendre meilleur soin de vos amusements. » Pendant le cours de ce catéchisme, on nomma encore plusieurs autres spectacles dont je n'ai pas retenu les noms. Mais je répondais à chaque question par une négative et mon ignorance désespéra beaucoup ces messieurs. « Ah, ça !» reprit M. Smith, quand on eut desservi le thé. « commençant par montrer à mademoiselle la différence qu'il y a de vivre avec des gens qui aiment à se divertir. Vive la joie! Où irons-nous, par exemple, ce soir? Quant à moi, je proposerai le théâtre de foot. Mais c'est aux dames à choisir. Je n'ai d'autre volonté que la leur. Miss Brandon, il faut convenir que M. Smith est toujours d'une humeur charmante. M. Smith, et sans doute, j'aime à être de bonne humeur et rien ne m'en empêche. Je suis sans souci, sans femme. Ha ha ha! Excusez-moi, mesdemoiselle, cette idée me fait rire. Personne n'ayant envie de contredire le projet de M. Smith, ni de répondre à sa saillie, nous allâmes à Haymarket, où je vis représenter la pupille et le commissaire, qui me divertirent beaucoup. Au sortir du spectacle, tout le monde est venu souper ici. Lettre 45. Suite de la lettre précédente. Je fus encore député hier matin chez M. Branton, conjointement avec M. Dubois. Nous étions chargés de lier une partie pour la soirée. Madame Duval n'avait pas trouvé à sortir la veille et elle en a eu des vapeurs. J'aperçus, en entrant dans la boutique, mon malheureux Écossais assis dans un coin, un livre à la main. Il me reconnut d'abord, car je le vis changer de visage. Je fis ma commission à M. Branton, qui me répondit que Miss Polly était dans la chambre d'en haut, mais que ses frères et sœurs étaient sortis. Je montai pour les attendre. Miss Polly était seule avec M. Brown. Je fus un peu confuse de troubler ce tête-à-tête. Ma présence ne parut cependant pas les gêner beaucoup. Les douceurs et les caresses de M. Brown n'étaient pas celles d'un amant discret et délicat, et sa maîtresse n'avait pas l'air de vouloir le tenir en respect. Je crus que j'étais ici un témoin superflu, et je leur dis que je descendrais pour voir si Miss Branton était revenue. Ils n'eurent pas honte de me laisser aller. Je retournai à la boutique et j'y retrouvai l'étranger. Il avait la tête penchée sur son livre, mais j'observai très distinctement que ses yeux étaient fixés sur moi. M. Dubois fit de son mieux pour nous entretenir dans son jargon anglais jusqu'à l'arrivée des jeunes Branton. Ils parurent enfin. « Ciel, que je suis fatiguée !» s'écria la demoiselle en entrant. Et aussitôt, elle s'empara de la chaise dont je venais de me lever pour la recevoir. M. Branton fils, qui apparemment était aussi fort fatigué, fit la même politesse à M. Dubois. Deux chaises et trois tabourets composaient tout l'ameublement de la boutique et il n'en resta pas pour moi. M. Branton, ne jugeant pas à propos de se déranger, invita l'étranger de se lever et lui cria « Allons, M. Marcarney, prêtez-nous votre tabouret !» Choqué de cette grossièreté, je déclinai le siège qui me fut présenté et je priai Miss Branton de partager le sien avec moi, puisque de cette façon, nous ne dérangerions personne. Le jeune Branton. Eh, voilà bien des compliments. Cet homme n'a-t-il pas eu tout le temps de se reposer? Miss Branton. Et s'il ne l'avait pas eu, il lui reste une chaise là-haut dans sa chambre, et la boutique est à nous, je pense. J'étais indigné, et je crus venger en quelque façon l'injure qu'on faisait à M. Marcarney en lui rendant la chaise qu'il venait de quitter. Je le remerciai de son attention en l'assurant que je préférais me tenir debout. Il n'osa plus se rasseoir et il me salua respectueusement avec la mine d'un homme qui n'est pas accoutumé à recevoir un traitement aussi honnête. Je vis bientôt que cette légère marque de politesse de ma part envers cet infortuné devint un objet de risée pour les Branton et qu'à l'exception de M. Dubois, tout le monde s'en moquait. Ainsi, pour couper court, je priai qu'on fît réponse au message de Madame Duval, puisque j'étais pressé. Monsieur Branton. Allons, Tom, allons, Biddy. Où avez-vous envie d'aller ce soir? Votre tante et la cousine ont besoin de se divertir, comme vous voyez. Miss Branton. Eh bien, papa, ne pourrions-nous pas aller chez Don Saltero? Monsieur Smith aime ce spectacle et peut-être nous y accompagnera. Le jeune Branton. Il vaudrait mieux, selon moi, aller au théâtre de Hampstead. Miss Branton. Fille, je n'en veux pas. Le jeune Branton. Eh bien, vous vous en passerez. Personne ne vous presse d'être des nôtres. Nous n'en serons que mieux sans vous. Dans ce moment, M. Smith revint au logis. et il allait traverser la boutique sans s'arrêter lorsqu'il m'y remarqua par hasard et ne tarda pas à me complimenter et à me demander gracieusement des nouvelles de ma santé, en protestant que s'il avait pu se douter de ma visite, il aurait hâté son retour. Il fut singulièrement choqué de me voir debout et il m'approcha au plus vite le siège que j'avais déjà refusé. M. Branton lui dit qu'il arrivait à point nommé, puisque Tom disputait avec sa sœur sur une partie qu'on devait arranger pour le soir, qu'il s'agissait seulement de savoir où nous irions. M. Smith. Fi donc, M. Tom, disputer avec une femme, cela n'est pas dans l'ordre. Quant à moi, j'irai partout où ces dames voudront, pourvu que mademoiselle soit de la partie. C'était de moi qu'il prétendait parler. Choisissez, Miss, je vous suivrai partout. Mais pas à l'église pourtant, s'il vous plaît, car les sermons me font peur. Miss Branton, mon idée était que nous allassions chez Saltero. N'êtes-vous pas du même avis? Monsieur Smith, vous savez bien, Miss Biddy, que je me remettrai volontiers au choix des dames et je n'ai point de volonté à moi. Mais il me semble pourtant qu'il ferait trop chaud aujourd'hui au café de Saltero. Cependant, décidez, mesdames, j'attends vos ordres. C'est un tic assez singulier que j'ai remarqué à cet homme. Il prétend toujours se soumettre à l'avis de tout le monde et il ne manque jamais de désapprouver celui qu'il n'a pas proposé. Cela ne l'empêche pas de passer chez les Branton pour un homme parfaitement bien élevé. Monsieur Branton, il n'y a qu'à aller au voix et chacun dira son sentiment. Ah ça, Biddy, dites à votre sœur qu'elle descende. Miss Branton, vous pourriez aussi bien charger Tom de cette commission. C'est toujours moi que vous choisissez pour faire des messages. Il s'ensuivit une dispute entre le jeune Branton et sa sœur, dans laquelle celle-ci fut obligée de céder. M. Brown et Miss Polly ayant jugé à propos de paraître, cette dernière se plaignit beaucoup de ce qu'on l'a dérangée pour si peu de choses qu'on aurait mieux fait de la laisser tranquille. M. Smith, allons au voix, mesdames, et c'est à vous, Miss, à commencer. Là-dessus, il me demanda ce que je préférais et il me dit en même temps à l'oreille que je pouvais être sûre que mon choix serait le sien, soit qu'il fût de son goût ou non. Je m'excusai et je lui fis sentir que, n'ayant aucune idée des spectacles de Londres, il était juste que j'attendisse le sentiment de ceux qui les connaissaient mieux que moi. On eut de la peine à adopter cette réflexion. On recueillit cependant les voix. Miss Branton se décida pour le café de Saltero. Sa sœur, son frère et M. Brown pour des spectacles obscurs que je n'ai jamais entendu nommer. M. Branton père pour les jets d'eau de Sadler. Et M. Smith pour le Vauxhall. Après que tout le monde eut prononcé, M. Smith me demanda ma voix qui devait être décisive. Comme M. McCartney n'était entré pour rien dans cette délibération, je résolus de lui faire politesse et de lui prouver que j'étais d'une meilleure trempe que le reste de cette société. Je remarquai pour cette raison que les suffrages n'étaient pas complets. M. Branton eut la brutalité de me répondre qu'il ne voyait pas lequel pouvait nous manquer, à moins que je n'eusse envie de prendre celui du chat. « Non, monsieur, répliquai-je, c'est celui de M. McCartney que je souhaite, s'il veut bien consentir à être des nôtres. » Ils partirent tous d'un éclat de rire immodéré, et moi, j'étais si indigné de cette conduite révoltante que je dis à M. Dubois que, s'il ne voulait pas me suivre, j'appellerais une voiture pour me retirer seul. M. Dubois consentit d'abord à m'accompagner, malgré les efforts que M. Smith fit pour me retenir jusqu'à ce que la partie du soir fût arrangée. Je lui répondis que je n'y étais pas intéressé puisque je comptais rester chez moi, que d'ailleurs je priais M. Branton de faire rendre réponse à Mme Duval quand il le jugerait à propos. Après quoi, je sortis de la boutique. Cette entrevue a achevé de me dégoûter des Branton. J'éviterai leur société autant que possible, mais je saisirai toutes les occasions pour distinguer l'infortuné McCartney. J'ai été fort contente de M. Dubois qui témoigna ouvertement son mécontentement de la conduite indécente de ces gens. Nous n'étions pas à 10 pas de la maison que M. Smith vint nous joindre pour me faire ses excuses en protestant que tout ce qui s'était passé n'était qu'une plaisanterie dont je ne devais pas être offensée, que si je croyais avoir à me plaindre des Branton, il se chargerait de ma satisfaction. Je le priai de ne pas s'en mettre en peine, mais je ne pus l'empêcher de me reconduire chez Madame Duval. Elle fut très fâchée du mauvais succès de notre négociation. Un messager des Branton nous apprit peu après qu'on s'était déterminé pour l'endroit qu'on appelle le White Conduit. Je voulus être dispensé de la partie, mais il fallut en être malgré moi. Je prévoyais que je passerais une soirée désagréable et mon attente ne fut que trop remplie. Je tombai dans une foule de gens bruyants et mal élevés, en un mot, au milieu de la lie du peuple. Jugez combien je fus à mon aise. Malheureusement, les personnes de ma société y semblaient être parfaitement à leur place. Lettre 46. Continuation de la lettre d'Evelina. Holborn, 7 juin. Monsieur Smith réussit hier à lire une partie pour le Vauxhall. Madame Duval, Monsieur Dubois, les Branton, Monsieur Brown en étaient, et moi aussi. Car malgré tous mes efforts, il faut que j'en passe par tout ce qu'ils veulent. Il fut convenu que nous partirions à 8 heures, en barque. Une course sur la Tamise était une nouveauté pour moi. J'avoue que je fis le trajet avec un vrai plaisir. Le jardin du Vauxhall est beau, mais trop régulier. J'y voudrais moins d'allées tirées au cordeau, moins d'uniformité. L'illumination et la société brillante qui s'assemble en cercle près de l'orchestre offrent un coup d'œil admirable, et si j'avais été en meilleure compagnie, je crois que je me serais beaucoup plu dans cet endroit. Nous y avions une assez bonne musique et, entre autres, un concert de hautbois qui fut supérieurement bien exécuté. Cet instrument est d'un grand effet en plein air. Monsieur Smith s'attacha encore à me faire sa cour avec autant d'assiduité que de hardiesse. Il m'excéda bientôt et je m'en tins au seul Monsieur Dubois. Il est honnête et respectueux. Et depuis que j'ai quitté Howard, je n'ai pas fait la connaissance de personne de son sexe qui le vaille. Il parle à la vérité un anglais à écorcher les oreilles. Mais tant bien que mal, il se fait comprendre. Je suis trop timide pour risquer de parler le français, que je sais peu d'ailleurs. Au reste, je retire un double avantage de mes conversations avec M. Dubois. Je me débarrasse par là des autres personnages de cette société et en même temps, je fais plaisir à Madame Duval. Nous étions à nous promener dans le voisinage de l'orchestre quand j'entendis sonner une cloche. Je ne connaissais pas ce signal et M. Smith, pour me l'expliquer, me fit courir à perte d'haleine jusqu'au bout du jardin. Là, il me fit entendre qu'on allait faire jouer les os. Nous arrivâmes encore à temps pour jouir de ce spectacle qui méritait effectivement d'être vu. Ensuite, on me fit faire quelques tours dans le jardin où tous les objets m'étaient nouveaux. Mon ignorance et mes méprises amusèrent infiniment ceux qui étaient de notre partie. Le souper fut servi dans une des premières loges et nous nous mîmes à table vers 10 heures. On trouva beaucoup à redire à chaque plat et cependant on les vida jusqu'au dernier morceau. La conversation roula pendant le repas sur la cherté des vivres et sur les profits que l'hôte pouvait faire sur notre dépense. Après qu'on nous eut apporté du vin et du cidre, M. Smith s'écria « Ah ça, donnons-nous-en au cœur joie. Il est temps ou jamais. Comment trouvez-vous, Miss, notre Vauxhall ?» Le jeune Branton « Comment elle le trouve ? Admirable, je pense. Où voulez-vous qu'elle ait jamais vu un endroit comme celui-ci ? » Miss Branton, quant à moi, je m'y plais parce qu'on y est en belle société. Monsieur Branton, convenez, Miss, que cette soirée est une fête pour vous. Je juge que de longtemps, vous ne vous êtes pas diverti comme aujourd'hui. Je tâchais de leur marquer mon contentement, mais apparemment, mes éloges ne leur parurent pas assez exaltés. Ils avaient l'air du moins d'en attendre davantage. Le jeune Branton ajouta à cette dissertation que pour goûter véritablement le Vauxhall, il fallait y être à la clôture. « Cela fait, continua-t-il, une soirée délicieuse, un désordre, une confusion de monde, un tintamarre. Ici, des lampions brisés, là, des femmes qui courent pêle-mêle. Oh, sur ma foi, je ne manquerai pas la dernière soirée pour bien de l'argent. » On demanda enfin le compte de la dépense et nous nous levâmes. Les demoiselles Branton proposèrent de prendre l'air pendant que les hommes régleraient l'écho. Madame Duval ne voulut point s'exposer dans la foule sans cavalier, et je refusai également.
« Sans doute par la même raison, » reprit Miss Polly en jetant un regard significatif sur M. Smith.
Ce fut uniquement pour ne pas flatter la vanité de ce dernier que je demandai à Madame Duval la permission de la quitter pour un instant. Elle me l'accorda sans peine et nous convint que nous la rejoindrions dans la salle. Je fus d'avis de nous y rendre d'abord, mais les demoiselles furent d'avis qu'il fallait auparavant nous divertir encore un peu. Avec cela, elles parlaient si haut et riaient avec si peu de ménagement qu'elles attirèrent tous les regards sur nous. « Il faudrait, reprit l'aîné, que nous fissions un tour dans les allées sombres. »«
L'idée est bien trouvée, » ajouta sa sœur. « Nous nous y cacherons et M. Brown croira que nous nous sommes égarés. »
Je leur fis sentir toute l'incongruité de ce projet, qui d'ailleurs nous exposait à ne pas retrouver notre coterie du reste de la soirée. Mes représentations furent inutiles et Miss Branton me fit même entendre que je serais apparemment mal à mon aise sans cavalier. Cette ineptie ne me parut pas digne de réponse. Je me laissai entraîner machinalement malgré moi et nous nous engageâmes assez avant dans une longue allée faiblement éclairée. Nous étions presque arrivés au bout quand nous fûmes accostés par une troupe de jeunes gens. Leurs démarches, leurs cris et leurs éclats de rire nous annoncèrent qu'ils étaient pris de vin. Ils nous entourèrent de manière que nous ne pûmes ni avancer ni reculer. Les demoiselles Branton poussèrent des cris et j'étais excessivement effrayée. Mais ces messieurs se moquèrent de notre peur. L'un d'eux s'avisa de me prendre rudement par le bras en me disant que j'étais une jolie petite créature. J'eus le bonheur de me dégager d'entre ses mains et je me sauvai en grande hâte pour rejoindre la compagnie que j'avais eu l'imprudence de quitter. Mais avant que je pusse atteindre mon but, je fus arrêté par une autre troupe d'hommes dont l'un me coupa le chemin en s'écriant « Où courez-vous si vite, ma belle ?» Un autre me retint par la main. Effrayée et hors d'haleine, j'eus à peine la force d'articuler quelques paroles. « Au nom du ciel, messieurs, m'écriai-je, laissez-moi passer !» À ces mots, l'un d'eux s'approcha brusquement de moi en disant d'un ton de surprise « Ciel, quelle voix ai-je entendue là ?»«
C'est celle d'une de nos plus jolies actrices, » répondit un autre.
« Non, repris-je, je ne suis point actrice. De grâce, laissez-moi !»«
Par tout ce qu'il y a de sacré, » continua le précédent que je reconnus pour Sir Clément Willoughby, « c'est elle-même. »
« Oui, Sir Willoughby, » répliquai-je, « secourez-moi, je vous en prie, je meurs de frayeur. »«
Messieurs, » s'écria-t-il en écartant ceux qui me retenaient, « laissez cette dame, je la réclame. »
« Ah ah !» répondirent-ils en jetant de grands éclats de rire. « Willoughby est un prince fortuné. » L'un d'eux s'emporta beaucoup en jurant que je lui appartenais par droit de conquête et qu'il soutiendrait ses titres.
Sir Clément les assura qu'ils se méprenaient grossièrement et promit de leur expliquer l'énigme une autre fois. Je lui donnai le bras et nous nous en allâmes au milieu des acclamations de ses compagnons. Dès que nous les eûmes perdus de vue, Sir Clément n'eut rien de plus pressé que de demander de mes nouvelles. « Quel hasard, me dit-il, ma très chère vie, quelle étrange révolution vous amène dans ces lieux-ci » Honteuse et humiliée de ma situation, je gardai le silence. Ces questions réitérées me mirent cependant dans la nécessité de répondre, et je lui dis en bégayant « J'ai perdu, je ne sais comment, ma coterie. » Il me pressa la main en ajoutant d'un ton de voix passionné « Oh, que ne t'ai-je rencontré plus tôt ?» Choqué d'une licence à laquelle je m'attendais si peu, je m'arrachai de ses mains. « Est-ce là, monsieur, la protection que vous m'accordez ?» Alors je remarquai ce que mon trouble m'avait empêché d'observer plus tôt. Il m'avait fait passer dans une autre allée aussi sombre que la première. « Grand Dieu, m'écriai-je, où suis-je ? Quel chemin prenez-vous ? »
Un chemin où nous n'avons point de témoins à craindre. Indigné de ce propos, je refusai de le suivre davantage.
« Et pourquoi pas, mon ange ? » reprit-il. Je palpitai de colère et le repoussai avec effort. « Osez-vous me traiter avec une telle insolence ? « Insolence ? » répéta-t-il. « Oui, monsieur, c'est le mot qui vous convient. Vous me connaissez, je devais espérer votre appui, et vous osez vous permettre. »«
Vous me confondez. Que venez-vous donc faire ici ? Est-ce ici la place de Misanville, dans ces allées sombres, sans être accompagné ? J'ai de la peine à en croire mes yeux. »
Je lui tournai le dos, et sans daigner lui répondre, je courus en diligence vers l'endroit du jardin où je voyais des lumières et du monde. Il me suivit d'abord sans dire un mot, puis il reprit. « Vous ne voulez donc pas m'expliquer ce mystère ?»«
Non, monsieur.
Ni souffrir que je l'interprète moi-même. » Il me fut impossible de soutenir plus longtemps cette conversation. Je pleurais à chaudes larmes. Dans ce moment, il se jeta à mes pieds. « Oh, Misanville, la plus aimable des femmes, pardonnez-moi. De grâce, pardonnez-moi si je me suis oubliée. L'idée de vous avoir offensée me ferait mourir. N'importe, pourvu que je retrouve mes amis. Soyez sûr que jamais je ne vous reverrai, que je vous ai parlé pour la dernière fois. » « Qu'ai-je donc dit, qu'ai-je donc fait, ma très chère dame, pour mériter tant de colère ? À quelle extrémité me croyez-vous donc réduite ? Vous profitez de l'absence de mes amis pour m'insulter. Ah, pouvez-vous me croire capable d'une pareille bassesse ? Je vous trouve dans une situation qui a lieu de me surprendre, je vous demande un mot d'explication, et vous avez la cruauté de me le refuser. Vous vous y êtes pris d'une façon qui ne devait vous attirer que du mépris. »
Du mépris, est-ce là le sentiment que j'inspire à Misanville ?
C'est le seul que vous méritez.
Et tandis que vous savez, mon aimable ami, que je ne respire que pour vous, que personne ne vous adore aussi passionnément, aussi tendrement que moi, pouvez-vous prendre plaisir à m'embarrasser, à me tourmenter de la sorte ?
Vous vous trompez, monsieur. Vos embarras et vos tourments sont purement imaginaires. Ils peuvent m'offenser, mais je suis loin d'y prendre plaisir.
Hélas, tant de hauteur peut-elle s'allier avec tant de douceur ?
Je ne répondis plus rien et je continuai à marcher à grands pas pour sortir de l'allée. Sœur Clément, qui me suivait de près, s'empara de ma main et me supplia, avec les plus vives instances, de lui pardonner ce qui s'était passé. C'est uniquement pour me débarrasser de ses importunités que je me vis forcé de souscrire en quelque façon à sa prière. Mais j'eus soin de le faire de la plus mauvaise grâce possible, et je lui promets bien que je n'en ressentirai pas moins sa conduite. Lorsque je fus de retour dans la salle et que je n'eus plus rien à craindre pour ma propre sûreté, mes inquiétudes se tournèrent vers les demoiselles Branton, que j'avais laissées dans un danger manifeste. Cette réflexion l'emporta sur un reste de vanité, et je me déterminai à chercher au plus vite ma coterie. Ce ne fut pas sans me rappeler les précautions que j'avais prises à l'opéra pour cacher à Sir Willoughby mes liaisons avec cette même société que j'allais rejoindre et qui était si différente de celle dans lesquelles il m'avait vu précédemment à Londres. J'aperçus bientôt Madame Duval et ses cavaliers. Sir Clément demeura stupéfait de me voir accompagné de la sorte. On me demanda d'abord des nouvelles des demoiselles Branton. J'avouai que j'avais eu le malheur de les perdre dans l'une des grandes allées où nous avions été insultés. M. Branton me reprocha, dans les termes les plus grossiers, l'imprudence que nous avions commise. Je priai son fils de voler au secours de ses sœurs. Il n'y consentit que par les ordres réitérés de son père, qui sortit avec lui. Le sieur Brown se mit aussi en devoir d'aller à la découverte de sa belle. Madame Duval ne s'aperçut qu'alors de la présence de sœur Clément. Elle lui fit un accueil peu gracieux et me dit « Vous voilà donc revenu, mon enfant. Je suis surprise que vous ayez choisi un tel conducteur. » « Je suis fâchée, répondit sœur Clément, si j'ai eu le malheur de vous déplaire. Mais j'espère que vous ne m'envierez pas l'honneur de vous avoir amené Misanville, puisque j'ai eu l'avantage de lui être de quelque utilité. » Madame Duval se préparait à répliquer lorsque M. Smith vint l'interrompre. Il me frappa familièrement sur l'épaule et me dit d'un ton cavalier « Ah, ah, je vous retrouve enfin, mon petit déserteur. Je vous cherche depuis une heure. Comment avez-vous pu nous quitter ?»
Je me flattais qu'un regard imposant suffirait pour réprimer les airs qu'il se donnait. Mais son intelligence ne va pas si loin. Il continua sur le même ton.
Allons, mademoiselle, cette mine chagrine ne vous va pas après le tour que vous nous avez joué. Considérez les peines qu'il m'en a coûtées pour vous chercher.
Monsieur, c'est votre faute et non la mienne si vous les avez prises.
Et en même temps, je me tournai vers madame Duval. Peut-être y avait-il trop de fierté dans ce procédé, mais je voulais éviter les conjectures malignes de sœur Clément, que je devinais assez par l'air de surprise qu'il affectait. Il renoua sa conversation avec moi.
« Vous n'êtes donc pas, mademoiselle, avec les Mirvan ?»«
Non, monsieur. »
« Y a-t-il longtemps que vous les avez quittés ?»«
Non, monsieur. »
« Malheureux que je suis, je comptais me rendre à Howard Grove et j'en ai déjà écrit au capitaine. Mais mon séjour n'y sera pas de longue durée. Resterez-vous encore quelque temps en ville ?»«
Je ne le crois pas. »
« M'est-il permis de savoir où vous irez ensuite ?»«
Cela n'est pas décidé jusqu'ici. »«
Pas décidé, dites-vous. Ne retournerez-vous pas chez les Mirvan ?»«
En vérité, je n'en sais rien pour le présent. »
Pour me sauver la suite de cet interrogatoire, je me mis à entretenir madame Duval et je réussis de cette manière à réduire sœur Clément au silence. Quand même, le changement subit que sœur Clément croit apercevoir dans ma situation pourrait excuser en quelque manière sa curiosité excessive, il n'en est pas moins vrai qu'en homme bien élevé, il devait s'épargner tant de questions indiscrètes. Il semble mesurer ses égards aux sociétés que je fréquente, car malgré les familiarités qu'il s'est toujours permises à mon égard, il ne s'est jamais oublié jusqu'à ce point. Aujourd'hui, il croit que les temps ont changé et il change avec eux. Tel est, sans doute, le principe d'où il part, et cette façon de penser le rabaisse dans mon esprit plus que tous ses autres défauts. Quel que fût mon embarras, je ne pus m'empêcher de me divertir beaucoup du singulier rôle que jouait M. Smith depuis l'apparition de sœur Clément. Son ton suffisant et badin l'avait quitté tout d'un coup, et il observait le baronet d'un air de perplexité et d'inquiétude. La présence d'un homme si supérieur à lui par le rang et les manières lui imposa une retenue respectueuse et le fit rentrer dans le néant dont il avait osé sortir. Pour échapper à une nouvelle conversation que sœur Clément était sur le point d'entamer, je m'amusai à examiner un des tableaux de la salle et j'en demandai l'explication à M. Dubois.
« Vous vous adressez bien mal, » me dit madame Duval. « Pourquoi ne pas consulter M. Smith qui connaît mieux le terrain ? Venez, monsieur, nous expliquer ses peintures. »
M. Smith, encouragé par cette distinction, reprit d'abord son ton d'importance et, s'avançant fièrement vers nous, il se mit en devoir de satisfaire madame Duval.
« Je connais, madame, tous ces tableaux et je suis d'ailleurs amateur de la peinture qui, en effet, est une fort belle chose. »
« Eh bien, monsieur, répliqua madame Duval, expliquez-nous donc ce que signifie cette figure. »
C'était un Neptune.
« Celui-là ? Ah, parbleu, comment s'appelle-t-il déjà ? Et puis-je donc être assez stupide pour avoir oublié un nom qui m'est aussi familier que le mien propre ? En attendant, je sais bien que c'est un général d'armée. Toutes ces figures représentent des généraux. »
Sœur Clément se mordit les lèvres et j'eus moi-même toutes les peines du monde pour ne pas éclater.
« Voilà cependant, dit madame Duval, un singulier habillement pour un général. »
« Cette figure, interrompit sœur Clément, me paraît si distinguée que je la prendrai pour celle d'un feld-maréchal.
Ne le croyez-vous pas, monsieur ?»«
Oh oui, monsieur, c'est précisément cela. Mais son nom m'est échappé. Vous vous le rappellerez peut-être ?»«
Non, en vérité. » Je n'ai pas beaucoup de connaissances parmi les gens de guerre. »
Le ton ironique de sœur Clément acheva de déconcerter le pauvre M. Smith. Et, mortifié du malheureux succès de sa tentative, il prit le parti de se taire pendant le reste de la soirée. Bientôt après, M. Branton nous ramena sa fille cadette qu'il avait réussi à délivrer d'entre les mains d'une troupe de jeunes insolents. L'aîné, qui revint ensuite, n'avait pas été mieux traité. Le jeune Branton et le sieur Brown nous rejoignirent aussi et nous nous disposâmes tous à partir. Il n'était plus question que d'arranger notre retour en ville. Madame Duval refusait d'aller le soir en barque. Sœur Clément lui offrit son carrosse, mais cette proposition la mit fort en colère. Elle lui répondit qu'elle se garderait bien de se confier à un homme de sa trempe. Il fut décidé enfin que notre société se partagerait et que Madame Duval, les demoiselles Branton, M. Dubois et moi, nous partirions en voiture. Jusqu'ici, tout allait à mon gré. Je me flattais que Sir Clément serait obligé de nous quitter et, par conséquent, qu'il ne découvrirait pas ma demeure. Nous étions effectivement déjà montés en fiacre lorsqu'il cria « halte au cocher ». « C'est toi-même, misérable, lui dit-il, que j'ai arrêté pour me ramener ?» Le cocher biaisa un moment, mais il finit par avouer que Sir Clément l'avait réellement retenu et qu'il l'avait oublié. Il est évident qu'une pièce d'argent glissée dans la main de cet homme opéra cet aveu. Quelle petitesse de la part de M. Willoughby ! Celui-ci était trop rusé pour ne pas mettre à profit cet événement. Il nous représenta qu'il était absolument impossible de se procurer un autre carrosse dans le moment et qu'ainsi il nous demandait la permission de prendre une petite place dans le nôtre. Il y monta sans attendre notre réponse et nous nous mîmes en route. Nous eûmes fort peu de conversation en chemin. Madame Duval seule laissa tomber de temps en temps quelques phrases dans lesquelles elle mêla les mots d'impertinence, d'impudence, de hardiesse, etc. Heureusement, ni Sir Clément, ni personne de nous autres ne releva ces expressions. Sir Clément témoigna beaucoup de surprise du quartier où l'on nous conduisait et il fut bien plus étonné encore lorsqu'il nous vit mettre pied à terre devant la maison d'un bonnetier. J'observai qu'il était attentif à reconnaître la place, vraisemblablement pour retrouver notre demeure. Il prit congé de nous après avoir fait descendre du carrosse les demoiselles Branton qui retournèrent chez elles à pied, accompagnées de M. Dubois. Quelle fatale soirée ! Tout le monde en a été mécontent, excepté Sir Clément qui parut de la plus belle humeur possible. Madame Duval est furieuse de l'avoir rencontrée. M. Branton gronde ses filles. Celles-ci sont à murmurer de leurs aventures. Leur frère se plaint que la partie n'a pas été assez animée. M. Brown est fatigué, M. Smith mortifié, et moi-même, j'ai essuyé toutes sortes de désagréments, et surtout celui d'avoir été trouvé par Sir Clément en si mauvaise société. Je suppose, monsieur, que cette entrevue vous déplaira également. Cependant, je crois être à l'abri de ces visites. Madame Duval le hait trop pour l'admettre. Lettre 47. Continuation de la lettre d'Evelina. Holborn, 9 juin. Madame Duval s'est levée fort tard ce matin et à peine avions-nous déjeuné à 1 heure lorsque Miss Branton, M. Smith et M. Dubois vinrent nous souhaiter le bonjour. Cet excès de politesse me surprit d'abord, mais je découvris bientôt le véritable sujet de leur visite. Miss Branton et M. Smith étaient curieux de connaître celui qui m'avait accosté la veille au Vauxhall. Ils insistèrent tous deux avec l'indiscrétion à laquelle ils m'ont déjà accoutumé. Madame Duval intervint d'un ton d'autorité et nous défendit à tous de parler de cet homme en sa présence. « C'est, disait-elle, un des plus mauvais garnements qui existent, un complice du capitaine Mirvan qui s'entendait avec lui pour m'assassiner, quoique je ne lui ai jamais fait le moindre mal. » Au moment où Madame Duval achevait cette invective, la porte s'ouvrit et nous vîmes entrer Sir Clément Willoughby lui-même. Son apparition nous mit tous en confusion. On lui présenta une chaise et on s'assit presque sans le vouloir. Il adressa la parole à Madame Duval en lui disant qu'il venait prendre ses ordres pour Howard Grove, où il comptait se rendre demain matin. Et sans attendre sa réponse, il se tourna vers moi et me demanda s'il serait assez heureux pour être chargé de quelques commissions de ma part pour la famille Mirvan. Je lui répondis que je ne lui donnerais point cette peine, puisque j'avais écrit par la poste d'hier à mes amis de Howard Grove. « Vous m'excuserez, reprit-il en revenant à Madame Duval, de ce que je ne vous ai pas rendu mes devoirs plus tôt, mais j'ai absolument ignoré que vous fussiez en ville. » Madame Duval n'avait pas ouvert la bouche jusqu'ici, mais il était aisé de voir qu'elle étouffait de colère. « Il faut l'avouer !» s'écria-t-elle tout d'un coup. « Voilà une audace sans exemple !»« Comment donc ?» répliqua l'intrépide Sir Clément. « Quelqu'un vous a-t-il offensé ?» Madame Duval sauta de sa chaise et nous nous levâmes tous. Sir Clément fit semblant de vouloir se retirer et, insensiblement, il engagea une nouvelle conversation. Le calme fut rétabli et nous reprîmes nos places. Il se plaignit de ce qu'il avait choisi pour sa course à Howard Grove le moment où nous en étions absentes. « Sans doute, interrompit Madame Duval, vous seriez charmée d'y retrouver quelqu'un qui puisse vous servir de plastron. Mais vous ne m'y rattraperez pas de sitôt. On vous connaît, monsieur. Et s'il vous arrivait encore de me jouer de vos tours, soyez sûr qu'on aura recours à des juges de paix moins éloignés que monsieur Tyrrell. » Sir Clément fit l'ignorant et protesta qu'il devait y avoir de la méprise puisqu'il ne comprenait rien à une imputation si contraire au respect qu'il portait à Madame Duval. « Vous voilà, continua-t-elle, devenue furieusement polie. Mais nous vous devinons, vous voudriez gagner pied ici comme à Howard Grove. Il n'en sera rien, croyez-moi. » Les reproches de Madame Duval étaient mêlés de tant de grossièreté qu'elle réussit à réduire Sir Clément au silence. Son embarras influa singulièrement sur le reste de la compagnie et tous ceux qui, le moment auparavant, semblaient interdits de respect pour sa présence, reprirent un air aisé et triomphant. Madame Duval, encouragée par un succès aussi complet, poursuivit sa pointe. L'aventure de la mascarade et de l'emprisonnement de M. Dubois fut rapportée fort en détail. Sir Clément assura sur son honneur que toute cette conversation était une énigme pour lui. « Ah, Sir Clément, est-ce à ce prix-là que vous mettez votre honneur ?» Cependant, sa situation empirait de moment en moment. Il se défendit mal et Madame Duval finit par l'accuser formellement d'avoir été l'un des hommes masqués qu'il avait si indignement traité. Elle le menaça de faire appeler sur le champ un commissaire. Les Brampton et M. Smith ne gardaient plus le moindre ménagement. Ils partirent tous d'un éclat de rire. Sir Clément, par un geste imposant, les fit rentrer dans le devoir. Mais il crut pourtant que le plus sage serait de se retirer. Il s'approcha de moi, qui, pendant toute cette scène, était demeurée spectatrice indifférente. Et après m'avoir demandé si je lui permettrais du moins d'informer mes amis de Howard Grove qu'il m'avait laissé en bonne santé, il ajouta d'un ton de voix plus bas « De grâce, ma chère Miss Anville, qui sont ces gens ? Par quel hasard vous trouvez-vous dans de telles liaisons ?» Je lui répondis haut qu'il ne me restait qu'à le prier de présenter mes civilités à la famille Mirvan. Il s'en alla de très mauvaise humeur. Je suppose qu'il ne se pressera pas trop à répéter ses visites. Madame Duval se félicite beaucoup d'avoir tiré de son ennemi une vengeance aussi éclatante et elle promet un traitement tout aussi humiliant au capitaine Mirvan à la première occasion. Monsieur Smith est un peu inquiet de s'être moqué d'un baronnet et il nous déclara qu'il aurait été plus circonspect s'il avait d'abord connu. Le jeune Brampton regrette de ne pas lui avoir demandé sa pratique et sa sœur nous assure qu'elle l'avait d'abord pris pour un homme de distinction. Tout cela est très fort dans le goût de mes personnages tels que je vous les ai dépeints. Lettre 48. Suite de la lettre d'Evelina. « Depuis 3 jours, monsieur, nous menons un genre de vie tranquille et retiré. Le Vauxhall a dégoûté Madame Duval des endroits publics. Mais comme il lui est impossible de rester longtemps chez elle, elle a résolu ce matin de dissiper ses ennuis par quelques parties de plaisir. Nous sommes sortis pour aller prendre les Brampton, et de là, nous devions nous rendre au jardin de Marybone. Une grosse ondée nous a surprises en chemin, et le temps semblait se mettre à la pluie pour toute la soirée. Rendus à Snow Hill, j'ai trouvé dans la boutique M. McCartney, assis, un livre à la main, dans le même coin où je l'avais vu dernièrement. Il me paraissait plus triste et plus abattu que jamais. Cependant, j'ai cru remarquer que sa physionomie s'éclaircissait un peu à notre arrivée. Je lui ai fait involontairement la première révérence. Il s'est levé et m'a salué avec une précipitation qui marquait sa surprise et son trouble. Quelques minutes après, la famille est venue nous joindre. M. Smith était engagé en ville. On délibérait si nous sortirions malgré le mauvais temps. M. Brampton nous a conseillé de patienter encore et de monter en attendant dans sa chambre. Son invitation a été acceptée et je me préparais à le suivre quand je vis que M. McCartney, qui avait fermé son livre, me fixait avec une attention particulière. Je m'aperçus qu'il désirait de me parler. Et pour lui en faciliter le moyen, je revins sur mes pas après que tout le monde se fût retiré de la boutique. J'espérais que cette démarche l'encouragerait à s'expliquer. Mais elle ne fit qu'augmenter son embarras. Il se promenait à grands pas en soupirant. Enfin, il se jeta dans un fauteuil. J'étais trop affectée pour être témoin de son angoisse et j'allais le quitter pour lui laisser le temps de se remettre. Il me rappela « Madame, au nom du ciel !» me dit-il. Il s'interrompit et je fis de mon mieux pour lui cacher le trouble dont j'étais moi-même agitée. Je me flattais qu'il en viendrait à une ouverture. J'étais sur le point de lui offrir ma bourse si je n'avais craint de l'offenser. Comme il continuait de garder le silence, je pris sur moi de lui demander s'il souhaitait de me parler. Oui, je le souhaitais, mais je n'en ai plus la force. Une autre fois, peut-être, quand vous serez plus calme. Une autre fois, reprit-il d'un ton lamentable. Hélas, l'avenir ne m'offre que misère et désespoir. Oh, monsieur, ne vous abandonnez pas à des idées aussi accablantes. Si vous désespérez ainsi de vous-même, comment pourrais-je ? Ah, madame, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Par quel hasard semblez-vous être devenu l'arbitre du sort d'un malheureux comme moi ? Veuille le ciel que je puisse vous être utile. Vous le pouvez. Dites-moi comment. Eh bien, madame, vous le saurez. La mort était l'unique ressource qui me restait. Vous me l'avez enlevée et j'ai acquis le droit de réclamer vos secours. Achevez, monsieur, on va descendre et vous n'avez plus de temps à perdre. Oui, madame, pourriez-vous donc, voudriez-vous, mais je n'en doute pas. Oh Dieu, je n'ai pas le courage de le lui dire. Je pris ma bourse en main et je m'approchai de lui. Monsieur, si en effet je puis vous servir, pourquoi me refuserez-vous cette satisfaction ? Permettriez-vous ? Ah, madame, votre voix est celle de la pitié. Depuis longtemps, Dieu le sait, je ne la connais plus. Dans le même moment, j'entendis le jeune Branton qui m'appelait. Je saisis ce prétexte pour me retirer. Que le ciel soit votre protecteur et votre consolateur. Ce furent mes dernières paroles. Je laissai tomber la bourse et je gagnai au plus vite l'escalier. Je vous connais trop, mon cher monsieur, pour craindre que vous désapprouviez cette bonne action. Je suis bien aise cependant de vous dire que je puis me passer de nouvelles remises puisque j'ai peu de dépenses à faire et que d'ailleurs je compte retourner bientôt à Howard Grove. Je dis bientôt et je ne pense pas qu'à peine 15 jours soient expirés du long mois pendant lequel je suis condamnée à languir ici. Les Branton ont beaucoup plaisanté du tête-à-tête que j'avais eu avec le sot écossais, c'est ainsi qu'on le nomme. Mais j'étais trop émue pour faire attention à leur sarcasme. La partie de Marybone a été heureusement renvoyée à un autre jour et nous sommes rentrés chez nous de fort bonne heure. J'ai laissé Madame Duval avec son fidèle compagnon, M. Dubois, et je me suis retirée dans ma chambre pour m'entretenir avec vous, le meilleur des amis. Voilà, monsieur, une journée que je finis avec un cœur bien content. J'ai contribué à soulager, autant qu'il dépendait de moi, un infortuné. Que le ciel en soit béni. J'espère qu'avec ce petit secours, le pauvre monsieur Marcarnet pourra acquitter ce qu'il doit à ses hôtes.